Mais je ne vais pas vous parler d'évangélisation aujourd'hui. J'ai un autre thème à cœur et qui, à mon sens, est primordial. Et qui, je l'ai prêché il y a quelque temps dans notre église à l'Eau Vive, en me disant, tiens, c'est un message dont on est tous conscients et pour lequel on est tous, vous allez voir, mais finalement, on ne prêche pas souvent dans nos églises. Et pourtant, c'est la base même, de notre foi. Et donc, si vous allez à nouveau sur des sites, si vous vous intéressez par exemple à la réforme protestante, quel était le fondement de la réforme protestante? Qu'est-ce que c'était? Il y a trois mots que Calvin et Luther ont mis en place. Oui. La Bible. Hein, et donc, on aura dit, on a une expression qui est sola fide, sola gratia, sola scriptura. Sola fide, c'est la foi seulement. La grâce seule, sola gratia, sola scriptura, l'écriture seule. Quelque chose qui a été remis en avant et qui dit que on est sauvé en mettant notre foi dans l'œuvre de Dieu, dans l'œuvre expiatoire, dans l'œuvre du sacrifice de Jésus-Christ. Et puis, c'est la grâce, ça veut dire que je ne peux pas le mériter, c'est gratuit, ça m'est donné complètement. Et à chaque fois que je suis en train de peiner dans ma vie chrétienne, je dis, il faut que je fasse, Dieu me rappelle, mais... J'ai tout fait pour toi. Reçois. Hein, et l'écriture comme référence. L'écriture, donc, c'est la Bible. Et je me suis dit, j'aimerais méditer avec vous ce matin sur ce thème de la Bible. Et ce qui se passe quelquefois dans les églises, c'est qu'il y a des gens qui sont anciens, qui sont convaincus et qui disent, donc le message général, bien sûr, c'est que la Bible est importante et primordiale, mais on n'a pas souvent un message de base qui reprend un peu tout ça. Pourquoi la Bible est importante? Qu'est-ce qu'on y trouve dans la Bible, hein? Alors, c'est de ça que je voudrais vous parler. Donc, je vais commencer par vous faire une brève présentation de la Bible. Ensuite, je vais vous parler des différentes formes de la parole de Dieu. Et puis, l'importance que cette parole a pour le peuple de Dieu. Et l'importance pour moi dans ma famille, pour moi en tant qu'individu. Et au fur et à mesure que je vais avancer, j'espère que vous en retirez certaines applications concrètes pour votre vie. Voilà. Alors, d'abord, on peut faire un petit quiz. Il y a combien de livres dans la Bible? 66, exactement. Très bien. Il y a combien d'auteurs dans la Bible? Pardon? Oui, très bien. Le Saint-Esprit a inspiré des hommes pour écrire. Combien d'auteurs humains? J'ai entendu quelqu'un. 40, voilà. 40 auteurs. Il y a quel est le verset le plus court de la Bible? Ouais, Jésus pleura, tout à fait. Jean-Jésus pleura. À quel moment les chapitres et les versets ça apparaît dans la Bible? Vous savez, au départ, la Bible, il n'y avait pas de chapitre et pas de verset. Ça a été bien plus tard. Ça commence 11e, 13e siècle, ça se termine 16e siècle. 16e siècle, on a fini avec tous les versets. C'est un processus qui s'est fait à travers plusieurs siècles. D'accord? Et puis, donc, des gens qui ont dit mais il faut absolument que ce soit plus facile de consulter cet ouvrage. Quel est le nombre de versets de la Bible? Moi, je l'ai regardé sur Internet, donc je n'ai pas de mérite. Hein. 31 101 versets. Par contre, le chapitre du milieu, psaume 118, moi, j'ai les réponses. Le verset du milieu, psaume 118, 8, d'accord? Et puis, en fait, si vous regardez, il y a 594 chapitres avant le psaume 118, 594 après. Quand on les additionne, on trouve 1188. Et psaume 118, 8, c'est le verset du milieu. C'est quand même intéressant. Hein. Et en fait, le psaume 118, 8, il a un verset, il a un texte, c'est un texte qui est d'importance fondamentale. Et il dit quoi? Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. C'est extraordinaire quand même, hein. Alors, je ne connais pas les détails, mais bon, alors, je ne sais pas s'ils ont effet. Mais bon, c'est quand même la moitié du texte en plein milieu, on a ce verset, quoi. C'est la souveraineté de Dieu qui est là. Hein. Voilà, le livre le plus long, c'est combien? Combien de chapitres? Le livre avec le plus de le chapitre? C'est les psaumes, c'est le psautier. D'accord? Psaume, il y a 150 psaumes. Le chapitre le plus long? Bravo, psaume 119, vous côtoyez les Écritures. C'est bien le livre le plus court. Le livre le plus court. 3 Jean. Troisième épître de Jean, d'accord? Voilà. Et puis, en nombre de traductions, la Bible est le livre le plus traduit au monde. Combien de traductions pour la Bible? Environ 1200, hein, d'accord? 1 millier, ouais, 1200, j'ai. Hein. Voilà, si vous voulez, j'ai 20 photocopies là. Hein, donc ce sera là, vous servez après. Je vais mettre ça là. Je mets bien sur le tout parce que sinon je ne vais pas les reprendre. Voilà. Donc pour vous donner un petit peu différentes formes de la parole de Dieu, une brève présentation. Et puis, la Bible, la parole de Dieu se présente de manière différente. Et ce qu'il faut d'abord établir clairement, c'est que la parole de Dieu, c'est qui d'abord ? C'est Jésus. Hein. Le prologue de Jean, la parole était Dieu. Hein. Jésus. La parole de Dieu, c'est d'abord, c'est une personne, c'est Jésus. Dieu qui s'est incarné, qui s'est habillé en homme et qui est venu sur la terre. C'est ça. Hein. Et c'est la parole vivante de Dieu. Dans ce beau texte dans Apocalypse 19, 13. Jésus, il est parlé Jésus, ses yeux sont une flamme de feu, sur la tête se trouvent plusieurs diadèmes, il porte un nom écrit que nul ne connaît sinon lui, il est vêtu d'un manteau trempé de sang, son nom est la parole de Dieu. Un superbe texte de l'Apocalypse quand il revient en vainqueur. Et maintenant, un peu plus vite peut-être, la parole de Dieu, c'est aussi ce que la parole que Dieu, dans la Bible on va trouver différentes, je vais essayer de vous amener dans ça, différentes façons de définir ce qu'est la parole de Dieu, comment elle est présentée. Quand Dieu parle et qu'il crée le monde, c'est la parole de Dieu. Hein, Dieu, il parle, mais il ne parle pas à moi, et les hommes ne sont pas encore créés. Mais il va parler, par la parole, que la lumière soit et la lumière fut. Dieu a parlé, ça c'est déjà la parole de Dieu. Il n'y avait personne pour écouter ça, vu qu'il n'y avait que Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Mais il y a là. Ensuite, il est dit dans Hébreux que Dieu, le Fils, est le reflet de sa gloire. Il soutient toute chose par sa parole puissante. Ça nous dépasse. C'est-à-dire que la parole est en train de soutenir constamment ce qui se passe dans l'univers. Les physiciens, ils doivent avoir une façon d'expliquer ça, mais nous, par la foi, on croit, c'est Dieu. Il est toujours en train de soutenir toute chose. Je suis en train de parler, en ce moment même, Dieu est en train de me soutenir. Parce qu'il a créé les choses de cette façon-là. On est soutenu sans arrêt par sa parole. Ensuite, il y a aussi une parole qui est donnée personnellement, directement par Dieu, de manière compréhensible, intelligible pour l'homme. Et ça, dans un langage humain. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je pense, bien sûr, quand Dieu rencontre Moïse sur le mont Sinaï, hein, il y a Dieu qui est là, et puis il va parler directement. « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. » Dieu parle à Moïse avec un langage qui est complètement intelligible. Il ne parlait pas en français. D'accord ? Il parlait dans la langue de Moïse. Donc, et il va lui parler, il dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face » et va suivre le décalogue, ce qu'on appelle les 10 commandements. Et puis ensuite, un peu différemment, il y a la parole de Dieu par le canal humain. Là, c'est Dieu qui parle avec le langage de l'homme à l'homme directement. Et peut-être ça vous est arrivé que Dieu vous parle à vous, dans votre langue, bien sûr. Dieu, il parle toutes les langues, d'accord ? Hein ? Mais que s'il nous parle à nous, il peut mettre une pensée, une impression. Moi, je me souviens, je faisais des bêtises un jour. J'étais jeune chrétien, avec ma 205, j'allais voir un client dans la montagne, quelque part, là, et je faisais le foufou et j'ai doublé. J'ai commencé à doubler sans visibilité et Dieu m'a dit « Arrête !» Et j'ai vraiment senti que c'était Dieu, mon papa, qui me disait « Mais arrête !» Et je vous dis, je me suis rangé parce que c'était une parole d'autorité que Dieu m'a donnée à ce moment-là. Et il n'y a pas que ça, je veux dire, mais Dieu peut nous parler dans notre langage, bien sûr. Et donc, et Dieu va parler par le canal humain aussi. Et là, je vais vous parler, bien sûr, des prophètes, dans l'Écriture. Hein. À Jérémie, l'appel de Jérémie, « Ne dis pas, je suis un enfant, tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. » Voilà ce qu'il dit au prophète Jérémie. Hein, je rappelle que le mot « prophète » en grec, ça veut dire « parler de la part de Dieu ».« Prophète, je parle de la part de Dieu ». Et Jérémie, ça va être son ministère, et Dieu lui dit « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche ». Donc Jérémie va être le canal, il va parler pour Dieu. Les prêtres, dans l'Ancien Testament, parlent à Dieu de la part des hommes, ils représentent les hommes vers Dieu, hein, dans la prêtrise, quand on voit les sacrificateurs et compagnie. Le prophète parle de Dieu aux hommes, il est le canal que Dieu choisit, avec des mots dans le langage humain, bien sûr. Et à noter que dans ce sens-là, il y avait des prescriptions précises. Comme les prophètes, il y avait des faux prophètes, il y avait des vrais prophètes. Et Dieu dit, le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Donc il ne fallait pas parler n'importe comment. Vous remarquez qu'il y a deux critères pour être puni de mort en tant que faux prophète. C'est parler des choses que Dieu ne lui a pas dites, mais en plus, et donc parler au nom d'autres dieux. Et si on regarde des textes parallèles, et c'est inviter le peuple de Dieu à aller vers un autre Dieu. Quand ces gens-là sont réunis, alors Dieu dit, on va le punir de mort. Parce que ça, c'est vraiment c'est grave. Hein. Donc, des hommes qui vont transmettre, qui vont la parole de Dieu. Et puis, bien sûr, c'est de ça que je vous parle, la Bible aussi. La Bible de Dieu, la Bible, c'est quoi? C'est la parole de Dieu écrite. Écrite, mais comment elle a été écrite, cette parole? Alors, hein, on a le frère qui a dit le Saint-Esprit. Et effectivement, c'est le Saint-Esprit qui a inspiré des hommes de différents arrière-plans, 40 auteurs. Hein, mais ça se fait à travers les siècles. Alors, il y a par exemple, dans Exode 31, Dieu qui parle à Moïse et il lui donne les deux tables du témoignage, donc le décalogue, les 10 commandements, qui sont écrites du doigt de Dieu. Donc Dieu lui donne ces choses qui sont déjà écrites et qui vont se retrouver ensuite dans la Bible, dans le texte. Et qui écrit en fait ce qu'on appelle la Torah, le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome? Eh bien, ça, c'est Moïse. Moïse va être l'écrivain de ces 5 livres. D'accord ? Il va être l'homme que Dieu aura inspiré pour réécrire tout, la Genèse, etc. Et puis, au fil du temps, il y aura d'autres écrits qui vont être ajoutés. Et on le lit, si vous avez votre lecture de la Bible, vous voyez, de temps en temps, vous trouvez un verset du genre « Josué écrivit ces choses dans le livre de la loi de Dieu. Il prit une grande pierre qu'il dresse à ce chêne, etc. » Jérémie, Dieu lui dit « Écris dans un livre toutes les paroles que je t'ai données. » Dans Jean, Jésus dira aux apôtres, le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alors, ça, c'est intéressant, parce que Jésus parle à qui? Aux apôtres. Et les apôtres vont être les personnes qui vont écrire le Nouveau Testament, d'accord? Hein? Et en fait, on se rend compte, si on fait une étude du concept de prophétie et d'inspiration, le prophète du Nouveau Testament, celui qui s'appelle prophète, est-ce qu'il a le droit de se tromper? Oui. Il ne faut pas qu'il se trompe, d'accord. Mais Paul nous dit, examinez toutes choses. C'est ça que je veux dire. Bien sûr qu'il n'a pas le droit de se tromper. Je veux dire, si y a quelqu'un qui prophétise qui se trompe, on ne va pas dire, tu vas être puni de mort. Il n'y a pas, ce degré. Hein. Pourquoi? Parce que le prophète dans le Nouveau Testament n'a pas le degré de fiabilité du prophète de l'Ancien Testament qui donnait la parole, comme Jérémie écrit. C'est la parole infaillible, il y a l'infaillibilité, d'accord? Et en fait, on se rend compte que l'équivalent du prophète dans l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, c'est l'apôtre, c'est ceux qui ont écrit les paroles. Et Jésus leur parle, il vous rappellera, et vous écrirez toutes ces choses-là. Et c'est pourquoi, dans le Nouveau Testament, une prophétie, il nous est clairement dit qu'il faut l'examiner et regarder si elle vient de Dieu. Il faut discerner si ça vient de Dieu ou pas. Et donc c'est intéressant parce qu'il y a des raisons, je ne vais pas explorer maintenant avec vous, mais à l'époque de Jésus, le mot prophète ne revêtait pas le même terme que le mot prophète à l'époque de l'Ancien Testament. C'est simplement pour ça. Hein, c'est ce qu'on appelle un champ sémantique, le sens du mot à un temps donné dans la langue, dans l'histoire de la langue. Donc, première conclusion. Alors Paul dit encore, si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Donc Paul, il se dit aussi, regardez, moi je vous écris et j'écris de la part de Dieu. Et ce sera l'Épître aux Corinthiens, par exemple. Okay. Alors, ce qu'on peut déjà voir là, dans ce que je viens de décrire, c'est que l'homme est appelé à une relation personnelle avec Dieu. Dieu, depuis le début, il vient vers nous. Nous avons chuté, et Dieu, c'est le spécialiste dans son amour de l'initiative. Le mouvement de la Bible, c'est Dieu vers les hommes, Dieu vers les hommes. Dieu a envoyé les prophètes, Dieu a donné la loi. Dieu s'intéresse à nous. Pour ça, il nous a donné la parole. Il vient vers nous. Nous étions perdus. On ne peut pas discerner comment je vais faire pour être sauvé, comment je vais faire pour diriger ma vie. Et Dieu prend l'initiative. Pourquoi? Parce qu'il s'intéresse à toi. Pourquoi il s'intéresse à toi? Il t'aime. Et il ne veut pas te laisser dans les ténèbres. Il ne veut pas me laisser dans les ténèbres. Donc Dieu prend l'initiative, ce qui montre bien que Dieu veut nous parler. Jésus dira, les brebis entendent sa voix, celle du berger, le berger marche devant elles, les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Et quelquefois, il y a des gens qui viennent me voir, disent, Christophe, qu'est-ce qui se passe, j'ai un problème. Je dis, enfin, je vais dire, mais quelle est la dernière chose que Dieu t'a dite? Quelle est la dernière chose que Dieu t'a dite? Et quelquefois, il y a une chose que Dieu m'a dite, mais c'était il y a 6 mois, il y a 3 ans, et puis j'ai pas fait ce que je devais faire, j'ai pas obéi, j'ai pas suivi. Et donc, je me retrouve un petit peu dans une situation difficile et Dieu me demande de passer par un chemin parce qu'il est bon pour moi. Hein? Et on est appelé à reconnaître la voix de Dieu. Et je suis d'accord qu'il y a des frères et sœurs qui reconnaissent la voix de Dieu mieux que d'autres. Moi, je ne suis pas un spécialiste. Mais il y a des gens qui ont une fibre, j'appelle ça une fibre prophétique, qui vont recevoir des choses qu'ils reçoivent plus clairement que d'autres. Certaines choses, je parle des paroles pour un temps précis, d'accord ? Bien sûr, il n'y a pas que ça. Il y a la Bible, il y a la parole de Dieu pour moi aujourd'hui, hein, qui est écrite. Et à votre avis, quel est l'avantage du fait que la parole de Dieu est écrite ? Il y a des avantages ou pas ? Alors, trois avantages. Moi, j'ai mis trois avantages dans mes notes. Donc, trois avantages. On peut la lire, d'accord ? On peut la donner ? On peut la transmettre, oui ? Pour soi, personnellement, on peut la lire une fois, on peut la poser. Qu'est-ce que j'ai lu, là ? Je peux la revenir. Je vais à l'église, j'entends quelqu'un, Christophe Savage, qui dit des bêtises. Je rentre à la maison, je regarde. Qu'est-ce qu'il a dit, là ? C'est marqué dans la Bible. Hein ? Je peux revenir, c'est accessible, je peux vérifier. Je peux m'instruire, je peux me nourrir, c'est là, d'accord ? Je peux, hein, c'est le pain de vie, hein, donc je peux m'en nourrir. Et savez qu'il y a vraiment une opération spirituelle lorsque vous lisez la Bible, hein, c'est qu'il y a une nourriture qui vient en vous. De même quand vous mangez du pain, pour vous, hein, ça vous fait du bien. Spirituellement, quand on passe du temps dans la parole, qu'on médite, il y a un effet spirituel sur votre vie, parce que c'est là, c'est fait pour ça. Dieu l'a fait pour ça. Donc on peut être plus précis, précisément, on peut y revenir régulièrement, d'accord ? Et bien sûr, c'est accessible. Hein, quelqu'un disait, on peut la transmettre. Vous savez qu'en Corée du Nord, si on vous trouve avec le Nouveau Testament dans votre poche, c'est fini tout de suite, hein, sans jugement. Hein. C'est pour ça qu'il y a un tel combat. Le diable ne veut pas que la parole de Dieu soit accessible. Il ne veut pas. C'est un gros combat, un grand combat pour le salut des âmes et pour tout. Hein? Et donc, quel privilège nous avons de l'avoir. Hein? Il y a donc des choses, peut-être j'aimerais faire appel d'abord à votre conscience, mais aussi faire appel à votre volonté un peu plus tard. Où est-ce que j'en suis, moi, avec cette parole de Dieu ? Qu'est-ce que j'en fais ? Qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce qu'elle est présente dans ma vie ? Alors l'importance, ça me mène à cette importance de la parole de Dieu pour le peuple de Dieu dans la Bible. Bien sûr, on ne va pas dire que ce n'est pas important. Quelle est la recommandation qui est faite à Josué ? Que ce livre, donc ce n'est pas toute la Bible à l'époque, c'est le Pentateuque, c'est les cinq premiers livres. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc une recommandation qui est donnée de côtoyer l'Écriture, d'y être dedans pour avoir le succès. Et c'est intéressant parce que là, on a une définition du succès complètement différente du succès qui nous est proposé dans le monde. Avoir du succès, c'est quoi ? C'est faire ce que Dieu nous appelle à faire. Et comment je vais faire ce que Dieu m'appelle à faire ? Parce que je vais lire l'Écriture, parce que je vais côtoyer, parce que je vais prier. C'est ça le succès selon Dieu. Le succès selon Dieu, c'est quoi ? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. C'est de marcher humblement avec ton Dieu. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et le succès dans ma vie, c'est quand je vais être dans la sanctification, c'est quand je vais apprendre à pardonner celui qui m'a offensé, quand je vais apprendre à ne pas voler au travail, quand je vais apprendre à savoir parler à mon patron quand il me demande de faire un faux fax ou un faux machin. Ou quand... C'est ça le succès de la personne pour Dieu. Et Dieu nous appelle à être saints. Dieu nous appelle à marcher dans la sainteté, dans la droiture. Et chaque personne ici ce matin a un appel de Dieu sur sa vie à être un homme ou une femme de Dieu. Chacun, chacune. C'est l'appel que Dieu a sur vous et c'est un bon appel. C'est un appel qui est bon, qui est parfait, qui est agréable. Et recevez-le cet appel, toujours à nouveau. Ce n'est pas deux, trois personnes dans l'église qui ont cet appel, c'est chaque personne à marcher dans la sainteté, dans la justice, dans la droiture, à savoir demander pardon à son prochain, à pardonner celui qui m'a fait mal. Et souvent, c'est plus difficile de pardonner celui que je vois tous les jours que celui que je vois tous les 5 ans. Mais Dieu a ces choses-là pour nous, pour qu'on soit heureux, afin qu'on ait du succès. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Et ce qu'il faut souligner, c'est que la Bible, effectivement, et ça paraît à quelqu'un qui n'est pas chrétien, qui n'est pas né de nouveau, et c'est pour ça que c'est une aberration pour les non-chrétiens, c'est qu'on dit, nous croyons qu'effectivement dans la Bible, il y a tout ce qu'il faut pour le croyant, pour tout. Hein, et ce texte dans Timothée, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Mais, et Jésus dit dans Jean 17, ta parole est la vérité. Ça veut dire que la parole de Dieu, c'est la vérité pour tout ce qui se passe dans la société. Et aujourd'hui, on est confronté à ce grand danger d'un changement avec le mariage pour tous. Et pourquoi nous on dit pas, on n'est pas contre ces personnes, moi je ne suis pas contre les homosexuels en tant que personne, Dieu les aime, mais ce qui est proposé, c'est un danger pour notre société. Et la parole de Dieu le dit clairement, que c'est grave. C'est un changement profond. Et comment on le sait? Comment on le sait? Parce que la Bible nous le dit. On le sait, on ne sait pas, hein, c'est pas Bouddha qui l'a dit, c'est marqué dans la Bible. Et on croit que la Bible, c'est la vérité. Et on vit dans un monde aujourd'hui où il y a ce qu'on appelle la vérité relative et la vérité absolue. La vérité absolue, c'est quoi? C'est, par exemple, la gravité. Ça, c'est une vérité physique absolue. Il n'y a personne sur la Terre qui peut dire que ça n'existe pas. La vérité, la gravité, c'est une force physique, ça change pas. Vous pouvez faire ça 1000 fois, ça tombe toujours. D'accord? Ça, c'est une vérité sur le plan physique. Et de même qu'il y a des vérités absolues sur le plan physique, eh bien, il y a des vérités absolues sur le plan spirituel. Dieu est amour. C'est une vérité absolue. Hein? Le péché nous sépare de Dieu. Une vérité absolue. Dieu nous a créés pour qu'on vive le mariage homme et femme. Dieu a créé, il veut que la sexualité se déroule uniquement dans le cadre du mariage. Pourquoi? Parce que Dieu est un rabat-joie? Non, pas du tout. Parce que Dieu vous a créé, il sait ce qui est bon pour vous. Il sait que ce sera meilleur. Et il y a des bonnes raisons quand on regarde le projet de Dieu pour le mariage, pour lesquelles c'est marqué. Et donc, il y a des vérités spirituelles absolues dans l'Écriture. Et si nous attachons à ces vérités, eh bien nous allons voir que nous allons réussir. Nous aurons du succès. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Ce n'est pas simplement le fait de la lire, c'est le fait de la méditer. La méditer, ça veut dire quoi, méditer la parole? Et vous savez, vous êtes tous des gens qui méditent tout le temps. On médite tout le temps, pas forcément la parole de Dieu, mais si vous allez acheter un frigo, un réfrigérateur, merci, pas de pub, hein? Eh bien, vous allez regarder sur Internet, vous allez voir le magasin, il y a Arthur Martin, il y a Ariston, il y a ceci, il y a des glaçons, il y a machin. Vous regardez une question, même chose pour une voiture, et vous la regardez sous différents angles. Ça que vous faites. Ah ça, puis le prix. Hein, et vous avez un processus de réflexion sur quelque chose. Et au bout d'un moment, il y a quelque chose qui se passe. Et il y a une pensée maîtresse qui va s'imposer plus ou moins. Et c'est un peu ça, méditer, mais avec la parole de Dieu et en relation avec Dieu par le Saint-Esprit. Mais c'est pareil. Donc on va regarder un verset, il est hein, et puis heureux qui trouve son plaisir dans la voie de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Méditer, ça veut dire quoi? Je réfléchis sur méditer. Méditer, ça veut dire quoi? Ça veut dire ça, d'accord, je suis en train de méditer, voilà. Et puis il y a un produit qui se fait en nous. Et puis Dieu peut nous parler et produire une conviction dans notre cœur. C'est pourquoi il faut répéter toujours à nouveau que nous avons besoin de ce temps personnel avec Dieu dans la parole. C'est vraiment un combat, je le sais, je le vis personnellement, à moins que pour tout le monde il n'y a pas de problème, vous lisez toute la parole tout le temps. Hein? Ouais, il faut être conscient, c'est un problème. Et c'est pourquoi il nous faut nous rappeler, nous encourager les uns les autres régulièrement à être dans la parole, à côtoyer les Écritures, à s'en laisser, à l'absorber, à se laisser impressionner, à imprimer des choses, je dirais, sur notre cœur. L'importance de la parole. Pourquoi? Parce qu'elle va nous enseigner, je l'ai dit, elle va nous convaincre, nous corriger, nous instruire dans la justice pour les bonnes œuvres. Quand j'ai quitté mon travail, je travaillais chez Jeffco, dans le transport, et c'est en lisant la Bible le matin, avant de quitter mon travail, il y avait un problème avec mon patron, et c'est en lisant un texte dans la Bible, d'un seul coup, que je faisais ma lecture, que Dieu m'a dit à travers ce verset, j'ai toujours pas bien compris comment il l'a fait, mais je sais que c'était dans ce moment avec un verset que Dieu m'a dit de ne pas dire quelque chose à mon patron dans ce temps. Merci. Et un peu plus tard, par un autre texte, je disais, bon, je vais vendre ma voiture pour aller à l'institut biblique, ce sera mieux, etc. Et c'est un autre texte un matin ou un jour en réfléchissant, en méditant, Dieu m'a dit non, tu vends pas ta voiture. Il y a ces moments de communion avec Dieu et où Dieu va nous parler. Mais Dieu aussi ne nous dit pas seulement « ne vends pas ta voiture » dans la Bible, parce que ça, c'est très personnel, c'est très subjectif. Hein? Donc, c'est une utilisation subjective de l'Écriture. Il faut faire attention aussi, hein, un texte pris hors contexte est un prétexte. D'accord ? Texte hors contexte égale prétexte. Il faut lire l'Écriture dans sa révélation, dans son fil conducteur, dans tout ce qu'il y a un fil dans l'Écriture qu'on peut suivre. Hein? Mais ce que je voulais souligner, c'est l'importance de la côtoyer, d'être dedans. Parce que avec tout ce qui va se passer, on a besoin de la Bible, donc pour nous former nous-mêmes, pour laisser Dieu nous former, nous, et puis pour faire des disciples. Vous savez ce texte dans 2 Timothée, Paul dit à Timothée, ce que tu as entendu de moi, Paul parle à Timothée, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres. Donc Paul est là, première personne. Il parle à une deuxième personne qui s'appelle Timothée. Il lui dit, ce que tu as entendu de moi, Paul, passe-le, toi, Timothée, passe-le à des hommes fidèles. Donc, troisième génération de personnes qui, eux, vont le confier à encore quelqu'un d'autre. D'accord ? Donc, c'est quoi ce que tu as entendu de moi ? C'est ce qui est dans la Bible. Et on est appelé à faire des fidèles. On a affaire à faire des disciples. Et si moi, je ne la connais pas, cette parole, comment est-ce que je vais faire des disciples ? Je vais dire, oh, la vie chrétienne, je m'ennuie. Hein ? Non, mais il y a tout. Et dans le mot disciple, effectivement, il y a discipline. Et donc, à nouveau, c'est ce contenu de la Bible que nous voulons connaître. Dieu, pour nous aider à comprendre l'importance de la Bible, de la parole de Dieu et son action, il nous a donné des images. Alors, est-ce que vous pouvez me donner des images de la parole de Dieu qui sont données ? La Bible est comparée à quoi ? La parole de Dieu est comparée à quoi, plutôt ? Lumière, tout à fait, hein ? Miroir, tout à fait, dans Jacques. Comment ? L'épée. Ça sert à quelque chose, une épée ? À trancher, hein ? Dans quel moment ? En garde, mon ami.
Hein ?
Combattre, d'accord ? Combattre. Du miel et du lait. Vous avez déjà mangé du miel ? Et du lait, lait chaud ? Un peu de chocolat ? Du pain ? Roc ? Une lampe ? La lumière, une lampe ? Ta lampe, ta parole est une lampe sur mon sentier. Ok, quoi d'autre ? À double tranchant, ça coupe. Hein ? Mais dans la prière, hein ? La parole de Dieu, la prière pour quelqu'un, hein ? Ou dans mon combat personnel, une parole de Dieu qui vient, paf ! Le problème est réglé, il passe quelque chose. C'est l'épée. Hein ? Une semence, la parole de Dieu, c'est une semence. C'est quoi encore ? La pluie, hein ? Comme la pluie descend du ciel, ma parole ne reviendra pas à moi sans effet, Ésaïe 55. Okay. Du feu, Jérémie 23. Pour le feu, ça fait quoi ? Ça brûle, et quand ça brûle, ça fait ? Ça nettoie, ça purifie. Hein ? Vous vous rendez compte ? Une lampe, du pain, un marteau qui brise. Boum ! Marteau. On se rend compte que ce n'est pas tellement en phase avec le parler correct. Du monde actuel, de la politique. C'est pas tellement en phase. Hein. C'est sûr que quand Christine Boutin a sorti la Bible dans l'hémicycle, on comprend que ça a fait des... Hein, parce que ça va complètement, ça va à l'encontre. Bon, déjà, on est en pays laïque, hein, je veux dire, même dans la rue, quand vous faites ça, ça va à l'encontre de tout ce qui nous habite, hein, tout ce qui fait de nous des Français. Nous sommes Français, ça veut dire que depuis qu'on est né, d'abord, on a l'héritage spirituel du pays, qu'on a naturellement. Mais depuis qu'on est né, on porte en nous cette espèce de pensée que Dieu, c'est pas bien. Hein, c'est quelque chose dont on doit même se repentir. Hein, on en a hérité. Et on a hérité d'une honte. Paul dit dans Romains, je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Mais cette honte, elle ne vient pas. Même Paul a expérimenté cette honte. Pourquoi il a expérimenté cette honte, Paul ? Ça vous est déjà arrivé d'avoir la honte de l'évangile ? Ou je suis tout seul ? Hein ? D'accord ? C'est quelque chose qui est en nous et qui... Pourquoi ? Mais la honte, vous savez ce que c'est que la honte ? Comment ça fonctionne ? La honte, c'est le fait d'enfreindre une loi acceptée par la société dans laquelle on est. Par exemple, en Jordanie, si vous asseyez... Je vais tenir comme ça. Si vous asseyez comme ça et que la semelle de votre chaussure fait face à votre voisin, c'est la honte. C'est honteux comme comportement, d'accord ? C'est honteux. Donc le voisin, si vous faites ça, il pense que vous pensez qu'il vaut moins que, ce sur quoi vous marchez. Et donc, mais ça, comment ils le savent, les Jordaniens? Parce que depuis tout petit, on leur a inculqué. Hein, dès l'âge de 2-3 ans, le petit garçon, il met ça. On met une petite tape, fais pas ça, c'est la honte. Eh ben, on dit, c'est en arabe. Hein. Donc, mais nous, on a la même chose. On a des choses qu'on dit, mais fais pas ça, tu te tapes la honte. Parce que c'est des choses qui sont en nous, c'est pas raisonné, c'est complètement en nous. Et quand il s'agit de l'évangile, il y a quelque chose, comme c'est pas de l'homme, il y a quelque chose qui... Tu vas pas parler de l'évangile quand même. Tu oses parler de Dieu, tu oses ceci, parce qu'on sait que la société entière est contre. C'est pour ça qu'on a vraiment besoin de la puissance de Dieu, on a besoin d'être renouvelé dans notre intelligence, on a besoin de cette communion avec Dieu, et c'est pour parler de l'évangile. Et moi, j'ai fait l'expérience dans ma vie que plus je suis proche de Dieu, plus je suis empreint de sa présence, plus ça sort. Ça sort. C'est lui qui parle. Et je me souviens très bien, j'étais sur mon vélo, je chantais le Seigneur, je louais le Seigneur et tout, et j'arrive dans mon quartier, et la voisine, c'était chez mes parents, la voisine me voit, et je devais avoir la joie de Dieu sur moi. Elle me fait, qu'est-ce qui vous arrive, vous? Je dis, mais c'est la joie de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Je parlais de la gloire de Dieu, je dis, c'est la joie du Seigneur. Parce que on est dans la présence. Et si on s'éloigne de la présence, quelque part, on a toujours les bonnes choses à dire, on sait, mais il manque un peu une force. Et il y a aussi, je voudrais dire, qu'il y a aussi des choses dont on doit se repentir. Il y a tout un travail sur la honte qu'on doit faire en tant que chrétien. Pour discerner, parce que si Paul a eu, il y a les raisons pour lesquelles Paul avait la honte, hein, c'est qu'il venait d'un arrière-plan pharisien contre l'évangile. Et ça l'habitait. Hein, et il sentait bien ce combat en lui. Hein. Et pour le grec, qui dit, c'est la puissance de Dieu pour le juif. Pourquoi? Parce que le juif, c'était le salut par quoi? Par les œuvres. Et donc, d'un seul coup, Paul, il découvre que non, c'est pas par les œuvres, c'est par grâce. Sola gratia. Il apporte ce message, mais c'est la honte. Tout en lui, tout ce qu'il a été élevé à penser que mais c'est la honte. Mais non, la vérité, c'est que c'est pas la honte. Et pour les Grecs, c'était des païens. Les Grecs, c'était quoi? Les Grecs, c'était partout où vous alliez, il y avait des hôtels, des idoles. Vous alliez au marché, une petite courbette devant l'hôtel pour, pour le dieu Olympe. Vous alliez encore plus loin, il y avait Morphée. Et puis, on mettait de la... Donc, un Grec, un païen... Ils faisaient des offrandes partout pour les faux dieux. Et vous venez, vous dites, toutes tes offrandes, ça ne sert à rien. Repends-toi, tu seras sauvé. Un seul chemin. Pas 5 000 dieux, un seul dieu. César, non, il n'est pas dieu, il n'est pas roi. Ça ne vous porterait pas un petit peu de honte d'aller porter un message? Et nous, on est chrétiens, on va dans notre milieu de travail, on apporte un message qui est vraiment tellement à l'encontre de la culture qu'on sent qu'il y a de la honte. Et Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Je reviens à la parole de Dieu. Je vous invite, frères et sœurs, à la mettre au centre, à la remettre au centre. Et quand je me suis converti, donc en 85, on disait dans les églises, lisez la Bible en un an. Lisez la Bible en un an, s'il vous plaît, c'est important. Un an, c'est pas évident à faire, hein. C'est 4 chapitres par jour, 3 à 4 chapitres par jour. Aujourd'hui, après quelques années, on disait, bon, lisez la Bible en 3 ans. Et maintenant, on dit, lisez la Bible en 6 ans. Alors, je suis d'accord qu'on n'a pas tous le temps. Parce qu'il y a des gens qui bossent 40, 50 heures par semaine. Qui ont du transport, qui ont un tas de choses. Il y a des mères de famille qui ont 3-4 gosses. Et je me souviens d'une mère de famille qui me disait, mais moi, si je dois faire ce qu'ils me disent, il faut que je me lève à 3 heures du matin. Hein, vous voulez me faire mon culte, faire ceci. Il y a des saisons dans la vie. D'accord? Et nous ne sommes pas sous la loi. Mais le principe que je voudrais vous souligner, c'est que la parole de Dieu est la parole de Dieu. Comme je l'ai expliqué, on en a besoin. Et alors, comment aménagez-vous votre journée, votre semaine, pour dire... La parole de Dieu, je la côtoie. Et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, vous la lisez ou vous ne la lisez pas? Si vous la lisez, comment vous la lisez? Qu'est-ce que vous lisez? Est-ce que vous lisez, lorsqu'il lui a appris que Jean avait été livré, Jésus se retire dans la Galilée, et puis après on repasse à autre chose? Ou est-ce que vous lisez tout un livre, tout l'évangile de Jean, par exemple, en essayant... Simplement, en prenant votre temps, on dit, voilà, il y a 21 chapitres, je vais faire 21 jours, d'accord? Ou je vais faire 42 jours. Est-ce que j'ai une méthode pour m'assurer que je la côtoie à l'écriture? Est-ce que je lis tous les psaumes? Comment je m'y prends, d'accord? Et il y a des outils qui sont disponibles pour ça. Hein? Et si vous ne la lisez pas, peut-être c'est le moment de dire, tiens, aujourd'hui, Seigneur, je vais me mettre à la lire. Et je vais peut-être lire un verset tous les jours. Mais je vais le faire bien. D'accord? Il y a des applications hein, sur les smartphones maintenant, vous pouvez avoir votre verset tous les jours, vous pouvez lire... Si vous allez sur jesus.is, vous pouvez télécharger des Bibles. Vous pouvez télécharger des Bibles que vous pouvez écouter. Donc vous pouvez être dans votre voiture, vous pouvez écouter. Moi, quelquefois, je fais ça, je bricole, je mets un texte biblique que j'écoute. Et c'est incroyable, lorsqu'on écoute un texte biblique qui est lu par quelqu'un d'autre, comment ça peut nous faire du bien, comment on peut remarquer des choses qu'on ne connaissait pas. Il y a aussi la Bible que vous pouvez voir en film, c'est-à-dire les textes, vous savez, le film de Jésus. Ça suit exactement l'évangile de Luc, le texte de Luc. Donc vous pouvez regarder sur votre téléphone ou à la télé, vous pouvez regarder le texte. Il y a beaucoup de choses. Mais ce que je voudrais vous demander, frères et sœurs, ce matin, c'est de vous mettre en route ou vous remettre en route. Et je l'ai dit, ça s'adresse à tout le monde parce que Josué, c'était un leader spirituel. Et le roi d'Israël, il devait lire aussi, il devait recopier le texte biblique pour lui-même et pour le méditer. Donc en fait, plus on veut s'engager avec Dieu, plus on est appelé à côtoyer l'Écriture, bien sûr, parce qu'on a une responsabilité spirituelle plus grande. Où est-ce qu'on en est dans tout cela? Où est-ce qu'on en est dans notre lecture de l'Écriture? Et dans ma famille, pas ma famille à moi, mais dans notre famille, en tant, est-ce qu'on a un culte de famille? Oh là là, je rajoute un peu là, je claque. Hein? Comment je fais? Ah, il faut faire un culte familial, mais je ne peux pas, les enfants. Non, non. Est-ce que je peux, est-ce que je ne peux pas? Comment je m'y prends? Le père a reçu une autorité de Dieu pour conduire sa famille, avec sa femme. Tous les deux, ils ont une autorité particulière pour conduire les enfants sur le plan physique, mais bien sûr spirituel, sur tous les plans, mais il y a une responsabilité spirituelle. Comment est-ce que je m'y prends? Est-ce qu'on peut faire un verset par jour? Et nous, on a décidé de faire ça sans mettre une loi, mais de vouloir persévérer dedans. Vous savez que jusque dans les années 60, le culte familial dans les milieux protestants, c'était quelque chose qui était considéré comme acquis. Et c'est seulement depuis les années 60, ça fait combien donc? Ça fait 50 ans, que c'est parti à la trappe. Hein? Mais jusque dans les années 60, tout protestant, il y avait la Bible dans la maison. Et donc moi, c'est pas du tout de mon... Parce que moi, je suis né beaucoup plus tard. Enfin, je suis né dans les années 60. Et donc, c'est pas quelque chose qui fait partie de notre culture, même si on est forcément, si on est protestant. Mais c'est important que la Bible soit au centre de la famille, qu'elle soit là, qu'on sache que c'est la référence. Alors, qu'est-ce que je peux mettre en place dans ma famille qui soit facile? Et souvent, moi, c'est ma femme qui m'aide beaucoup à pas me prendre trop la tête, à pas être trop légaliste, à pas culpabiliser, à pas ceci. Et à le fait que ce soit vraiment, ça fasse partie de la journée. Alors quand on fait ça au repas du soir en général, quand tout le monde est là, à la fin du repas, pas au début parce que sinon ils ont faim, mais au moment du dessert, paf, pendant le dessert, tout le monde écoute, tout le monde est content, on peut sortir la Bible, faire un petit truc. Quelquefois ça marche bien, quelquefois ça marche mal, mais en tout cas c'est là. Et on essaie de le faire. Il y a des jours où on ne le fait pas, il y a plusieurs jours, quelquefois d'affilée où on ne le fait pas, mais on persévère. On persévère pour que la Bible soit la référence dans la maison. Et on demande la grâce de Dieu pour ça. Et on ne veut pas transmettre un fardeau de culpabilité, on veut transmettre la vie, bien sûr. Dieu dit, tu les écriras à Moïse sur les poteaux de ta maison et sur tes portes, en parlant de ses commandements. Ça veut dire que ça fait aussi partie de notre quotidien, tous les jours. Et à nouveau, pour le culte familial, on veut dire à nos enfants, hein, on discute d'un problème, d'un sujet, on s'en va, on emmène l'enfant à l'école ou n'importe quoi, et puis paf, tiens, mais ouais, tu sais, le Seigneur, il a dit ça. Pas pour rien. Et vous savez, en tant que Français, on a aussi cette honte. Vous savez pourquoi on peut avoir cette honte? Parce qu'on se dit, ah oui, tout le monde est venu, il faut les laisser grandir comme ils peuvent, c'est eux qui vont choisir. Hein? Et puis, quelquefois, en tant que chrétien, on me dit, non, mais moi, je veux qu'ils choisissent le Seigneur, je vais faire ce qu'il faut pour. Mais bien sûr que c'est eux qui choisissent. On ne peut pas convertir nos enfants. On ne peut pas convertir les autres, mais on veut faire tout ce qu'il faut pour. C'est vraiment cette difficulté de toujours d'être pas sous la loi, mais de faire ce qui est bien. Et c'est là. Donc, je vous invite ce matin à faire ce point pour terminer. Où est-ce que vous en êtes? Où est-ce que tu en es, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu as lu la Bible? Est-ce que tu la côtoies? Est-ce que tu la connais? Enfin, je ne pas te connaître des versets par cœur, mais est-ce que tu connais son message? Est-ce que tu peux t'en servir pour bénir quelqu'un? Est-ce qu'elle change ta vie, la Bible? Est-ce que tu te laisses changer par la parole de Dieu? Tu te laisses interpeller? Il y a beaucoup d'outils pour tout cela, mais je pense que vous avez ce qu'il faut, les ressources ici, bien sûr. Mais je voudrais qu'on prie maintenant. Et je voudrais vraiment faire appel à votre volonté d'homme, d'individu. Dieu vous a donné le libre arbitre. Dieu vous a créé avec la capacité de faire des choix. Ce n'est pas ce que je ressens qui est bien, qui fait chaud, qui fait froid. C'est ce qu'est-ce que je veux faire dans ma vie. Quel est mon choix aujourd'hui? Et je vous invite maintenant, on va se mettre devant le Seigneur. Seigneur, on se met devant toi.